C'est vrai que c'est un acte de foi que tous les dimanches, dimanche après dimanche, on ouvre la Bible et on dit Seigneur, on croit que tu veux nous communiquer quelque chose. Beaucoup de gens ne le font pas, tout simplement. Beaucoup de gens ne s'attendent pas à recevoir de la part du Seigneur. Je voudrais qu'on puisse ouvrir la Bible, donc dans Matthieu au chapitre 13. Nous sommes dans une série en ce moment sur cette portion de prière du Notre Père, que ton règne vienne, et nous croyons que le royaume de Dieu peut venir encore de manière plus intense dans nos cœurs. Un jour, il va venir, le Seigneur Jésus, sur la terre, et de manière physique, et de manière politique même, il va y avoir un royaume de Dieu installé sur terre. Mais en attendant, Dieu veut qu'il y ait un royaume spirituel. Dieu veut régner à l'intérieur de nos cœurs. Et on a vu la semaine dernière déjà que dans ce royaume, comme dans tous les royaumes d'ailleurs, il y a des lois, il y a des règles, il y a des principes. Et quand on agit selon ces principes, on accède à la bénédiction de Dieu. Quand on ne tient pas compte de ces principes, eh bien parfois on se heurte à des murs. Et le Seigneur, c'est non pas qu'il nous résiste, non pas qu'il est contre nous, mais c'est nous qui nous opposons à lui, puisqu'on ne va pas dans le sens de ses lois. C'est pour ça que c'est important de méditer ces choses, et puis de passer surtout nos cœurs au crible de la parole de Dieu pour savoir est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu. La semaine dernière, nous avons vu deux lois, la loi de la multiplication, on pourrait l'appeler aussi la loi du fruit. Tout ce qui vient de Dieu produit du fruit. Quand Dieu sème quelque chose, c'est pour que ça produise du fruit. Il y a une puissance. Quand Dieu met de l'amour dans un cœur, c'est pas un petit peu d'amour, quelques gouttelettes, mais c'est un fleuve d'amour qui déborde et qui amène à aimer les personnes qui sont autour de nous. Mais on a vu aussi la loi de l'éclosion, c'est-à-dire que, à un moment donné, pour que le grain il puisse porter du fruit, pour qu'il donne la vie à quelque chose, il faut qu'il y ait une mort. Il faut qu'il y ait un renoncement. Et ça, c'est un principe tellement important parce que beaucoup de gens voudraient être bénis, beaucoup de gens voudraient recevoir de Dieu toutes sortes de choses, mais ils sont pas prêts à renoncer. Ils sont pas prêts à abandonner leur vie passée. Et ça ne fonctionne pas parce que c'est une loi. La mort engendre la vie. Le renoncement en soi entraîne la vie éternelle dans notre cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, on va voir deux autres lois qui sont aussi dans Matthieu chapitre 13. La loi du tri, la loi du prix. Ça va? C'est pas trop difficile? La loi du tri et la loi du prix. Matthieu 13, verset 24. On va lire deux paraboles. Vous allez voir qu'elles ont la même pensée, ces paraboles que Jésus nous donne. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Déjà, nous voyons que là, il y a une réponse à la question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi est-ce que Dieu permet des injustices? Mais Dieu permet que l'ivraie et le blé croissent en même temps, de peur qu'en agissant contre l'ivraie pour la punir, ça soit aussi le blé, les justes qui soient impactés par cela. Non, Dieu veut qu'il y ait une croissance et que la différence se fasse de plus en plus flagrante. Alors on va jusqu'au verset 36 où les disciples demandent l'explication de cette parabole. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui les a semés, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au verset 47, regardez ce qu'il est dit, une autre courte parabole. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toutes espèces. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'attasser sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Vous voyez que déjà à deux reprises dans ces passages, le Seigneur Jésus parle de ce jugement terrible où certaines personnes seront pour l'éternité séparées d'avec Christ. Parfois, on pense que Dieu est tellement amour que l'enfer ne peut pas exister. Mais Dieu est tellement amour qu'il laisse le libre choix aux êtres humains. Certains choisissent de vivre toute leur vie pour lui et ils choisissent même de passer l'éternité avec lui. D'autres refusent la présence de Dieu et Dieu ne fait que leur donner ce qu'ils demandent. Ils veulent une éternité sans Dieu, ils ont une éternité sans Dieu. Simplement, les gens ne réalisent pas ce que ça signifie. Toutes les grâces de Dieu que nous pouvons vivre sur cette terre, nous les avons parce que le Seigneur nous aime. Mais quand on est dans l'enfer, on est loin de la grâce de Dieu et on est loin de la présence de Dieu. Et il n'y a pas autant d'occupations qu'il y en a sur cette terre. Mais combien ça vaut la peine de faire le bon choix? Alors la loi du tri, quelle est-elle? La loi du tri, c'est en fait que ceux qui n'est pas de la même nature n'a pas la même fin. Les justes et les mauvais, les méchants, n'auront pas la même fin. Même si pendant un temps sur la terre, il faut qu'il y ait un moment où on soit ensemble. Quelqu'un a dit, un proverbe français nous dit « on ne mélange pas les torchons et les serviettes ». Je trouvais que ça faisait un peu péjoratif quand même cette histoire. Surtout à l'époque, c'était plutôt pour les serviettes qui exprimaient la noblesse, et puis les gens du peuple là, les serviteurs qui on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Mais c'est un petit peu cette idée, mais avec beaucoup plus de respect quand même et beaucoup plus d'urgence. Et ce qui est une grâce de la part du Seigneur, c'est que on peut passer d'un camp à l'autre. On peut passer des fils du diable aux fils du royaume. Vous avez remarqué cette expression d'ailleurs, les fils du royaume. Est-ce que vous êtes des fils du royaume? Est-ce que vous êtes des enfants du roi? Est-ce que vous avez été rachetés par le roi des rois et le seigneur des seigneurs? C'est cette pensée qu'il faut avoir dans son cœur. C'est cette question qu'il faut se poser. Un autre proverbe nous dit, et ça c'est tiré directement de ce passage, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Deux paraboles qui sont là, qui sont semblables, qui sont adressées à toute la terre. D'un côté, c'est le champ qui représente le monde, c'est Jésus qui l'explique. Et de l'autre côté, c'est la mer avec tous les poissons qu'elle renferme. Et il y a des employés qui sont là. Alors, soit ils sont moissonneurs dans le champ de blé, soit ils sont pêcheurs et ils sont en train, avec un filet, d'essayer de ramener le maximum de poissons. Il y a un temps, il y a un moment déterminé pour qu'il y ait un ramassage, pour qu'il y ait une moisson. Il y a aussi un tri qui se fait. La loi du tri doit s'appliquer à un moment ou à un autre, un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, c'est une loi du royaume. Il y aura un tri, il y aura une séparation. Et il n'y a seulement que deux issues. On aimerait qu'il y en ait une troisième. On nous parle de toutes sortes de choses, on nous parle parfois de purgatoire, on nous parle de toutes sortes de choses. J'ai perdu le mot, mais c'est pas grave. On parle de toutes sortes de choses qu'il y a après la mort. Mais il y a réincarnation, c'est ça, merci. Il y en a qui suivent bien. Mais il y a ce que nous dit la Bible, la bonne fin et la mauvaise fin. Soit on est moissonné comme un blé et ramassé dans le grenier, soit on est enroulé dans le package et puis mis dans la fournaise, mis au feu. Soit on est mis dans le vase parce qu'il y a une nature bonne, soit on est mis de côté parce que c'est quelque chose de mauvais. Un jour ou l'autre, il y aura une moisson. Je pensais à ce jeune homme qui m'avait raconté son témoignage, qui m'avait dit, parce qu'il était né dans une famille chrétienne, il m'avait dit que quand il était petit, il suivait ses parents à l'église, il allait aux enseignements pour les enfants, et il était content de suivre tout ça. Mais lui-même, il n'avait pas de conviction de particulière d'être sauvé, et il faisait aucune démarche dans ce sens. Et puis, un jour, il s'est endormi, le soir, normalement, et il a fait un rêve. On parlait il y a quelque temps que Dieu est capable même de parler au travers des rêves. Et lui, justement, il a fait un rêve. Dans ce rêve, il se réveillait le matin et puis il fouillait la maison, il n'y avait personne. Il trouvait ça bizarre. Il se demandait s'ils étaient partis, qu'il l'avait laissé alors il avait une dizaine d'années. Alors, il appelle ses grands-parents, personne ne répond au bout du fil. Et il essayait d'appeler même des personnes qu'il connaissait de l'église, personne ne répond. Et puis tout d'un coup, la pensée le saisit qu'ils ont tous été enlevés et que lui, il est resté. Et là, il s'est mis à avoir une panique dans son cœur. Il a tremblé et c'est sur cette note-là de peur qu'il s'est réveillé comme d'un cauchemar. Et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était seulement un rêve qu'il avait fait, mais qu'il s'est rendu compte surtout qu'il n'était pas prêt pour ce jour où le Seigneur va venir moissonner son église. Et quand il s'est réveillé, il a demandé pardon à Dieu pour son péché. Et il a dit, Seigneur, je veux t'accueillir dans mon cœur. Je veux être prêt. Je veux pas attendre plus. Je veux que maintenant tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Et c'est ainsi qu'il s'est converti, ce jeune homme. Pourtant, il avait une famille chrétienne. Pourtant, il avait entendu toutes sortes d'enseignements. Mais c'est quand il a pris conscience qu'il y a un jour où il y aura une moisson. Il y a un jour où il y aura un temps où le Seigneur va dire, c'est fini. C'est maintenant que la porte de la grâce se ferme. Tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui sont rentrés, bénéficient de la grâce. Et malheureusement, pour tous les autres, il attend tous les malheurs qui sont décrits dans l'Apocalypse. Il y aura un jour où la loi du tri va s'appliquer. Soyons prêts. Ce matin, la question qui se pose, c'est est-ce que je suis prêt? Est-ce que mon frère, ma sœur, tu es prêt? Vous avez remarqué que pour tout tri, il y a un critère de tri. C'est comme ça que ça marche. Quand vous avez la poubelle jaune à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez n'importe quoi dedans? Ou vous faites attention, non, il faut mettre des cartons, il faut mettre des papiers, il faut mettre ceci, cela, des boîtes de conserve. Il faut mettre tout ce qui est dessiné dessus. Et parce que si je mets quelque chose d'à côté, ça fait plus de travail pour les autres. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que c'est la règle. Et même si on n'est pas d'accord, il faut le faire de toute manière. Bien sûr, les messieurs des poubelles vont pas venir voir si vous respectez scrupuleusement tout ça, hein. Et si vous vous trompez un jour en mettant dans la poubelle ce qui est pas bon, c'est pas grave. Mais pour tout tri plutôt, il y a un critère, il y a quelque chose, une règle qui est là qui permet de savoir si comment est distinguer, comment on fait la séparation. Et c'est exactement la même chose d'un point de vue spirituel. On a en France aussi cet exemple qui est là. Quand on a voulu mélanger, c'est en France et même en Europe, quand on a voulu mélanger ce qui était de l'ordre spirituel avec la politique, ça s'est passé il y a longtemps en arrière, dans les 3e siècle à peu près, avec l'empereur Constantin. Si vous connaissez l'histoire de France et l'histoire de l'Europe et l'histoire de l'Église, vous savez qu'à un moment donné, on a voulu prendre le christianisme comme une religion d'État. Le problème, c'est que la politique, les politiciens ont infecté ceux qui étaient de vrais croyants, et en faisant ce mélange-là, ben ça n'a pas entraîné de bons résultats du tout. On le sait en France, combien d'endroits, de villes, de régions tout entières sont encore imprégnées du sang des martyrs à cause de ce qui s'est passé. C'est bien une preuve que c'est pas bon. Et vous savez que les premiers à être d'accord avec la loi qui a été votée dans les débuts du 19e siècle, oui, c'est dans les années 1900, la loi de la séparation de l'Église et de l'État, les premiers à le vouloir, c'était l'Église protestante. Parce qu'ils ont payé le prix avec toutes les personnes qui ont été tuées à cause de ce mélange-là. C'est pas bon quand on essaye de mélanger des choses qui ne sont pas de la même nature. C'est pas bon quand on essaye de mélanger un cœur qui est rempli du Saint-Esprit avec les choses de ce monde. Ça produit pas de bons résultats. Et combien on a tout intérêt à laisser le Seigneur nous éclairer. Il y a le Seigneur qui nous dit qu'il y a des bons poissons et il y a des mauvais poissons. Il y a de l'ivraie et il y a du blé. L'ivraie, ça ressemble à du blé quand ça vient juste de pousser. On fait pas la différence, mais petit à petit, on se rend compte. Il y en a un qui va produire des bonnes choses, la farine et tout ça, et puis l'autre, on va pas pouvoir en faire grand-chose. Peut-être même s'empoisonner avec, si on se trompe. Et c'est important de savoir de quelle nature nous sommes. Alors, bien sûr, j'entends certains penser, mais on est tous pareils. On est tous de la même nature, on est tous des êtres humains, après tout. Est-ce que c'est vrai? Non? Il y en a qui me disent non, alors. On est tous des êtres humains. Vous ne me croyez pas? Regardez ce que dit la Bible. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 2, l'Ecclésiaste, c'est intéressant parce que ça nous montre le point de vue de manière humaine de ce qui se passe sur la terre. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pour celui qui est pur. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Le même sort pour tout le monde. Oui, le même sort pour tout le monde parce qu'il y a une même nature faible, pécheresse, parce qu'il y a un corps qui est que poussière et qui retournera à la poussière. Ça, c'est vrai, même qu'on soit au Seigneur ou pas, un jour ou l'autre, on doit passer par cette étape de la mort. D'un point de vue humain. Mais d'un point de vue spirituel, il y a une différence. Pourquoi ? Parce qu'il y a des natures spirituelles différentes. Dans Éphésiens chapitre 2, il est dit ceci, « Nous vivions autrefois selon les désirs de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » C'est-à-dire que dès le début, tous les hommes, oui, sont les mêmes, dans le sens où ils sont tous de nature pécheresse, des enfants de la colère. Et c'est-à-dire qu'il y a dans notre cœur ce sentiment de rébellion contre Dieu. Mais par la grâce de Dieu, par le salut de Jésus à la croix, par les plus grandes et les plus précieuses promesses, vous devenez participants de la nature divine. C'est ce que nous dit Pierre dans son épître. On devient participants de la nature divine. La nature de Dieu vient nous imprégner en nous. Alors c'est quelque chose d'incroyable. Non pas qu'on devient des dieux, attention, hein. Parce qu'il y en a qui pourraient tout de suite prendre du galon et gonfler un peu la poitrine et se croire plus grand que les autres. Mais Dieu nous fait la grâce de donner une portion de lui qui vient habiter en nous. C'est quelque chose de fabuleux. Et il nous permet de surmonter cette nature pécheresse, de la mettre à mort dans notre vie pour que ça soit sa vie à lui qui prédomine. Une même nature humaine, oui, mais une nature spirituelle différente. Comment est-ce que cela se passe? Qui c'est qui fait le tri? Qui c'est qui, à la fin du monde, va dire « lui, il est bien, lui, il est pas bien ». Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est les membres du CA qui valident? Tiens, cette personne, elle a un bon témoignage. On lui accorde le droit pour aller au ciel. C'est comme ça que ça se passe? Les membres du CA, c'est comme ça qu'on fait? Ben non. Nous, on n'a aucun pouvoir. Même le pasteur, c'est pas lui qui décide. Qui c'est qui décide? C'est Dieu. Dans ce passage, nous voyons que c'est pas les hommes qui se choisissent. Moi, je crois que je mérite d'être dans le vase parce que je suis un bon poisson. Et par contre, celui d'à côté, je trouve qu'il mérite pas. Hein. Donc, Seigneur, tu ferais mieux de pas le prendre. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est Dieu qui commande aux anges de faire selon la règle qu'il a établie, selon la règle de sa parole, selon les personnes qui se conforment à la parole de Dieu, qui croient, qui mettent leur foi dans la parole de Dieu. L'histoire nous montre tout entière, quand les hommes se placent dans ce rôle de « c'est moi qui vais séparer, c'est moi qui vais faire la différence, c'est moi qui vais dire aux gens « toi tu vas au ciel, toi tu n'y vas pas », l'histoire nous montre que c'est un dégât. Pensez aux nazis qui se pensaient tellement au-dessus des autres, et qui disait « les juifs, il faut qu'on les extermine », parce qu'ils faisaient la séparation. Pensez au temps où il y avait les esclaves et les maîtres, il y en a encore malheureusement dans d'autres pays. En France, on est épargné par cela, quoique avec la prostitution, il y a quand même de l'esclavage en France aujourd'hui. Mais pensez à ces gens qui pensent qu'ils sont au-dessus du lot. Moi, je suis un maître et lui, c'est un esclave. Quand les gens, quand les hommes pensent qu'ils sont dans ce rôle de devoir faire la séparation, eux, d'avec les autres, alors c'est la catastrophe. Quand on a compris que celui qui fait le tri, c'est le Seigneur, et qui le fait en toute justice, en toute intelligence, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de grâce, toujours prêt à tendre la main pour celui qui se perd, alors là, on comprend mieux les choses. Ce sont les anges, aux ordres de Dieu, qui font le tri. Ce sont eux qui respectent les critères fixés par le Seigneur. Et s'il y en a bien un qui ne sépare pas les gens, c'est Dieu. Vous savez qui c'est qui sépare les gens? J'ai entendu le diable, mais c'est pas ça que je voulais. C'est ça quand même. La Bible nous dit, ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation avec Dieu. Le péché, c'est ce qui nous sépare. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu et ce qui nous sépare les uns des autres. Même si en apparence, tout peut sembler bien, le péché est quelque chose qui nous, sépare les uns des autres. Et Dieu, par contre, est celui qui veut nous rapprocher de sa présence. Dieu est celui qui veut nous rapprocher les uns des autres. À la fin des temps, il est dit, on aurait pu prendre cette troisième parabole qui reprend la même image, que le Seigneur Jésus, sur son trône, va faire aussi une séparation, les boucs d'un côté, les brebis de l'autre. C'est-à-dire ceux qui auront agi envers leur prochain avec beaucoup de compassion et d'amour, parce qu'ils ont compris que dans leur prochain, il y a l'image du Seigneur Jésus. Toutes les fois que vous avez donné un verre d'eau à l'un de ces plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait, dira le Seigneur. Seigneur, quand avons-nous méprisé ? Mais toutes les fois que vous avez méprisé l'un des plus petits. Et c'est de cette manière que la séparation va se faire. Non pas que Dieu est méchant et injuste, mais Dieu fixe des règles, Dieu nous demande d'avoir de la compassion, de l'amour et de trouver en lui tout ce dont on a besoin, et puis de l'exprimer autour de nous. Et certains choisissent de faire comme ils ont envie, de suivre leur bon désir, ou leur désir plutôt, pas leur bon désir. Choisissons d'être des fils et des filles du royaume. Vous savez ce que ça veut dire séparer, le mot séparer ? Littéralement, ça veut dire tracer une ligne, délimiter. Et il y a cette image qui m'a frappé quand j'ai pensé à ces choses-là, de ce que Dieu il a fait. La séparation que Dieu fait, il fait quelque chose, il trace une ligne sur le sol qui, avec le sang de son fils, délimite une zone qui a la forme de la croix. Et il dit, voilà, vous tous qui êtes séparés de ma présence par le péché, vous tous qui êtes loin, vous tous qui êtes perdus, venez dans cette zone, venez par la foi en Jésus, et vous serez sauvés, et vous serez changés. Et votre nature pécheresse sera transformée en une nature spirituelle ressuscitée par la grâce de Dieu. Et c'est de cette manière que l'on devient fils et fille du royaume. Mais celui qui reste, celui qui choisit de rester à l'écart de cette zone où Jésus a donné sa vie, ben, il reste condamné. Si Dieu fait une délimitation sur le sol, c'est pas pour séparer les gens, mais c'est pour les sauver. C'est pour que les gens entrent dans son salut. Mais il laisse la liberté à chacun de choisir. Le seul tri que j'ai le droit de faire moi personnellement en tant qu'être humain aujourd'hui, c'est le tri en moi. C'est pas de trier, tiens, cette personne, je trouve qu'elle est pas spirituelle, celle-là, elle l'est. Non, ça c'est pas mon rôle. Le seul tri que j'ai besoin de faire, c'est dans mon cœur. Moi qui suis une personne qui est fils ou fille du royaume, est-ce que dans ma vie, il n'y a que des choses qui honorent le Seigneur ? Vous savez que Jérémie, à un moment donné, le prophète, il a entendu cette parole. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu lui disait, tout ce que tu diras, ça sera inspiré de moi. Mon esprit va agir avec puissance au travers de toi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est bien parfois de se tenir devant Dieu et de dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses mauvaises ? On le parlait la semaine dernière, de sonder notre cœur, de labourer notre cœur. Mais labourer notre cœur, c'est pour que les choses mauvaises ressortent. C'est pour que le Seigneur fasse un tri dans notre cœur, pour nous amener dans cette sanctification. Dépouillons-nous du vieil homme et de ses œuvres, nous dit l'apôtre Paul, et revêtons l'homme nouveau qui se renouvelle. Il y a un combat dans le chrétien, il y a un combat entre la vieille nature, la nature pécheresse, et puis la nature spirituelle. Mais le Seigneur nous appelle, par cette loi du tri, à faire le tri en nous. Qu'est-ce qui est de l'homme charnel ? Quand je boude, quand je fais la tête, quand je critique, quand j'ai des mauvais comportements, c'est de la chair, c'est l'homme charnel. Et je dois me dépouiller de ça et revêtir l'homme nouveau, les sentiments qui sont en Jésus-Christ, l'amour, la paix, la joie, la patience, tout ce que vous avez, que moi j'ai besoin de grandir, voilà, c'est ça qu'il faut développer dans nos vies. Mais quand on a la nature divine, alors même s'il y a du péché dans notre cœur, on va pas le supporter longtemps. Alors ça nous arrive à tous de tomber, attention, ça c'est, faut être conscient de ça, mais quand il y a du péché dans notre vie, on le supporte pas. Avant, on se mettait en colère, ça nous faisait rien. Maintenant, si ça nous arrive de nous mettre en colère, on n'est pas bien. On est mal à l'aise, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on se met en colère comme avant et que ça ne nous fait rien, ben, c'est l'occasion de se remettre en question. Est-ce que vraiment j'ai la nature divine ? Est-ce que je suis passé par la croix ? Est-ce que j'ai fait la paix avec Dieu vraiment? Parce que si c'est le cas, alors il y a un sentiment de mettre le Saint-Esprit qui est attristé en moi et je n'ai qu'une envie, c'est de me mettre à genoux et de demander pardon au Seigneur pour mon péché et être à nouveau dans sa communion, dans sa présence. Aujourd'hui, séparons-nous de ceux qui nous séparent de Dieu. C'est ça la loi du tri. Plutôt que de risquer d'être séparé de lui pour l'éternité. C'est aujourd'hui qu'il faut faire le choix. Parce qu'un jour, on dit toujours un jour, ça viendra. Mais le jour se rapproche de plus en plus, et un jour, ça sera aujourd'hui, où le Seigneur va choisir de moissonner son Église, et de laisser ceux qui n'ont pas voulu de lui, à leur propre, aux conséquences de leur péché, si vous voulez. La Bible nous dit, au travers d'un verset très simple, que le cœur qui est mélangé, partagé, il y a quelque chose de difficile pour lui. Leur cœur est partagé, dans Osée 10, ils vont en porter la peine. Un cœur qui est partagé, un cœur qui est mélangé entre le bien et le mal, un cœur qui fait les choses du monde et qui fait les choses de Dieu, il y a une peine qui est marquée sur sa vie. Il y a une tristesse, il y a un sentiment qui est là que rien ne peut enlever, si ce n'est de dire « Seigneur, je veux faire le tri, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et viens me laver, je veux marcher dans la sanctification. » Amen. Dieu veut un cœur plein, entier pour lui. Et au verset 44 de ce même chapitre, nous voyons deux paraboles très courtes qui nous montrent cette deuxième loi après la loi du tri, la loi du prix. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voilà à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Amen. Là encore, deux paraboles, vous voyez qu'elles sont courtes, hein ? Deux paraboles qui sont très proches et qui nous donnent cette même pensée. Il y a un objet de valeur. Dans un cas, c'est ceux qui ont suivi, c'est quoi ? L'objet de valeur ? Le trésor et la perle. Il y a dans les deux cas un homme qui cherche, un homme qui veut acquérir cela. Il y a un homme aussi qui vend tout ce qu'il possède dans les deux cas. Et puis, le résultat, c'est qu'il peut acheter l'objet désiré. Et la loi du prix qui est transmise oui, par ces deux paraboles, c'est que dans le royaume de Dieu, la valeur d'un objet se mesure au prix qu'on y met. Et c'est une règle qui est vraie, on le remarque partout autour de nous d'ailleurs. Ce que je vais donner détermine ce que je désire vraiment. On pourrait le dire encore plus simple, quand on aime, on y met le prix. Vous comprenez cette loi ? La loi du prix, c'est quand on aime quelque chose, on y met le prix. Cet homme, il aime les perles, il aime le trésor caché qui est là, alors il va donner tout ce qu'il a, il va vendre tout ce qu'il a pour acquérir. Bien sûr qu'il y a cette application spirituelle qui est évidente, c'est que Jésus, il a donné ce qu'il avait de plus cher pour acquérir des hommes et des femmes sur cette terre. La perle précieuse, le trésor caché, c'est l'Église. C'est les fils et les filles du royaume. C'est ce que Dieu s'est acquis au prix du sang de son Fils. Dieu cherche, Dieu désire avoir cette communion entre lui et les hommes et les femmes. À quel point est-ce que nous sommes estimés de Dieu ? Dieu fixe la valeur pour une vie, pour la vie même de tous les hommes et les femmes de cette terre. Qu'est-ce que Dieu a pu vendre ? Qu'est-ce que Dieu a pu donner que nous n'en aurions jamais pu donner ? Bien sûr que c'est évident. Jésus. Nous, on aurait pu donner notre fils. Moi, j'aurais pu le faire, peut-être. Mais je ne l'aurais pas fait, hein. Mais ça ne servait à rien, parce que mon fils, il c'est un être humain, comme les autres, il est pécheur. Jésus, il était parfait. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, celui qui avait toute l'approbation de son père, celui qui avait parfaitement agi. Bon, des fois, nos enfants nous désobéissent, mais Jésus n'avait jamais désobéi une fois. C'est merveilleux d'avoir un fils comme ça. Et pourtant, c'est celui-là que Dieu a choisi de donner. Bien sûr qu'il n'avait pas besoin de vendre quoi que ce soit. Toute la terre, l'argent et l'or lui appartiennent, nous dit la parole. Tout est déjà à lui. Mais son fils bien-aimé en qui il avait mis toute son affection, là, il a choisi de le donner pour que nous puissions lui appartenir. Jésus, il a choisi d'abandonner son ciel de gloire. Il a choisi de délaisser ses louanges que les anges lui faisaient retentir en son égard, en son honneur. Il a choisi d'abandonner tout ça pour venir sur la terre, pour montrer à tous les hommes combien Dieu les aime. Le but, bien sûr, c'est de nous racheter. Nous étions vendus à l'esclavage, séparés à cause du péché, comme on le disait, mais Dieu nous offre le rachat et la liberté. Est-ce que parce que Dieu a fait cela, tous les hommes sont sauvés? Est-ce que c'est ça? Pourtant, la loi du prix nous montre que Dieu a mis le prix pour nous montrer son amour. Mais Dieu nous aime tellement qu'il nous laisse la liberté. Maintenant, c'est à nous de dire à quel point est-ce que je veux être libre, à quel point est-ce que je veux vivre ce que Dieu a prévu pour moi, à quel point je veux obéir à ce qu'il m'a dit dans sa parole, à quel point je veux être béni. Ce que je donne démontre ce que je désire. Si je dis que Dieu a de la valeur, si je dis que Dieu est celui qui est la plus grand amour et je veux vivre vraiment pour lui, alors je dois offrir ma vie. Et rien de moins que ma vie. Ça ne veut pas dire se sacrifier, hein. Offrir notre vie comme un sacrifice vivant, justement. Notre corps comme un sacrifice vivant. Mais Dieu ne demande rien de moins que ça. Dieu veut mon cœur entier. Toute ma vie, mon âme, mon corps, mon esprit appartiennent à Dieu. Si je veux vivre, la bénédiction de Dieu. C'est à moi, puisque lui, il a déjà démontré son amour et combien j'ai de la valeur à ses yeux, c'est à moi de lui démontrer combien il a de la valeur à mes yeux. La balle est dans notre camp, frères et sœurs. Et ce que nous faisons jour après jour détermine à quelle valeur nous avons mis Dieu, de quelle manière nous estimons le Seigneur. Il y a un danger. Il y a trois dangers même qu'on va développer pour terminer. Trois dangers dans lesquels on peut tomber quand on est dans cette loi du prix. C'est-à-dire quand on regarde plus à ce qu'on perd que à ce qu'on gagne. Vous savez que quand on suit le Seigneur, je l'ai dit la semaine dernière déjà, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses auxquelles on doit renoncer. Mais si on passe notre temps à regarder ce à quoi on renonce, sans regarder à toutes les grâces et les bénédictions que Dieu nous donne, eh bien, on tombe en dépression. C'est aussi simple que ça. Parce que des fois, c'est dur. C'est dur de renoncer à certaines choses. C'est dur de passer du temps dans la prière. C'est dur de laisser telle ou telle série ou émission ou jeu que l'on aime pour passer du temps à la prière. C'est dur. Mais quand on a compris tout le bien, toute la grâce, tout ce que Dieu veut nous donner par derrière, c'est beaucoup plus facile. Il a été rapporté que sur le Titanic, il y avait 11 millionnaires qui étaient présents sur le Titanic. Et l'un d'eux, à un moment donné, quand le bateau coulait, il est retourné dans sa cabine rapidement. Et dans son coffre, il avait 300 000 dollars en argent, en bijoux et en titres. Et c'était dans un coffre-fort de sa cabine. Et il a dit lui-même, l'argent semblait être une moquerie à cette époque, à ce moment-là. Et il a préféré prendre les trois oranges qu'il avait dans la chambre que le coffre avec 300 000 dollars. Parce qu'au moment du naufrage, ce qui a la valeur, c'est ce qui va lui servir. L'argent, il allait lui servir à rien. Les poissons, ils allaient pas lui amener à manger. C'était pas comme Élie qui a reçu de Dieu au travers des corbeaux de la nourriture. Non, non. Les oranges, c'était plus important. Parfois, l'argent a moins de valeur qu'une orange. C'est la preuve, là. Il y a des choses qui ont moins de valeur selon les circonstances, et le Seigneur doit nous montrer dans nos vies ce qui a vraiment de la valeur. Qu'est-ce qui a de là une valeur éternelle qui ne fluctue pas selon le temps? C'est pareil quand on a des actions en bourse et qu'on pense qu'on va gagner beaucoup d'argent et que le titre s'écroule et qu'en fait on a perdu des fortunes. Des gens comme ça se sont retrouvés sur la paille parce qu'ils ont mis leur confiance dans des valeurs qui ont perdu de leur valeur. Ils se sont retrouvés totalement pauvres. Mais parfois, quand il y a ce danger d'insister, c'est-à-dire d'avoir une pensée, d'avoir un raisonnement, d'avoir un sentiment, d'avoir une personne et qui fausse notre regard. On s'entête, on continue, et quel que soit ce que Dieu nous dit, on continue dans la mauvaise voie, et ça nous empêche de payer le prix que Dieu veut que l'on paye. C'est là qu'il faut revenir à ce qu'on disait la semaine dernière, la loi de la vie. Si je veux que la vie de Dieu se manifeste, il faut que je meure. Il faut que je dise, Seigneur, je renonce à ça. Il faut que j'arrête avec ça. Il faut que le grain de blé tombé en terre, il meure pour qu'il porte beaucoup de fruits. N'insistons pas, ne regardons pas ce qui nous perd, mais regardons ce que nous gagnons. Il y a un autre danger, c'est le danger de l'ignorance. Quand on ignore la valeur, on peut faire des erreurs. Cette histoire d'un homme qui était en Allemagne, qui aimait les vieux livres. Et puis il a rencontré un ami qui venait de jeter une Bible stockée dans son grenier. Ça faisait des siècles et des siècles qu'elle était dans ce grenier, ça se transmettait de génération en génération. Et puis, il explique à son ami, voilà, je viens de jeter une vieille Bible, elle me servait à rien. J'arrivais même pas à la lire, c'était du vieux allemand. Et puis, en plus, quelqu'un nommé Guten quelque chose qu'il avait imprimé. En fait, c'était Gutenberg. Une Bible que Gutenberg, le créateur de l'imprimerie, a imprimé, un des premiers livres qu'il a imprimé. Et le gars lui dit, mais cette Bible, c'était l'un des premiers livres. Une copie qui est de la même époque, elle vient d'être vendue plus de 2 millions de dollars. Alors déjà, l'autre, il dit, mais oui, c'est vrai que ça aurait pu avoir de la valeur, mais moi, il y a le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait griffonné toutes sortes de choses partout. Bon, en plus, ce monsieur, il a signé, ce monsieur, il s'appelait Martin Luther. Il a jeté une Bible imprimée par Gutenberg avec les notes de Martin Luther en personne qui avait écrit partout. Donc ça avait décuplé la valeur, mais parce qu'il ignorait, eh bien il a jeté. Parfois on méprise les choses de Dieu parce qu'on en ignore la valeur. Il n'y a pas que les choses de Dieu, mais beaucoup de choses autour de nous qu'on peut mépriser parce qu'on ne se rend pas compte de la valeur. Et c'est là qu'il faut dire, Seigneur, je te demande ta sagesse, ton intelligence. Je demande que mes yeux spirituels s'ouvrent pour voir les priorités, les choses qui sont importantes sur cette terre. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui a cette valeur qui ne change pas malgré le temps et les circonstances? La première chose, c'est le salut, la vie éternelle. Qu'est-ce qui ne change pas selon les circonstances? C'est l'amour que Dieu veut mettre dans nos cœurs. L'amour que nous, on a pour les gens, ça fluctue, hein. Mais quand on a compris que la source de l'amour, c'est Dieu, alors ça ne change pas. La paix et toutes les grâces que Dieu veut nous donner. Voilà ce qui doit avoir la priorité dans nos vies. Ne soyons pas ignorants, mais regardons à ce qui est important. Et que le Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux de notre cœur pour cela. Paul le dit, je te demande Seigneur qu'il ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils comprennent toute la puissance qu'il y a avec le Saint-Esprit, l'héritage, la gloire, etc., etc. Dans Éphésiens chapitre 1er, vous voyez tout ce qui est dit par l'apôtre Paul. Mais on a besoin que nos yeux spirituels s'ouvrent sur la valeur véritable des choses. Troisième danger, après l'insistance dans des mauvaises voies ou l'ignorance, c'est la dissonance. J'aime ce mot, dissonance. Je suis musicien, donc j'aime bien ce mot. Parce que quand il y a quelque chose qui est dissonant, ça c'est pas bon, hein. Quand quelque chose sonne faux, vous savez, quand il y a une note, une jolie note, et puis une note qui passe à côté, ça sonne faux. C'est dissonant. Et parfois, on est conscient de la valeur des choses de Dieu. On est conscient de toute la beauté. On est conscient de toutes les grâces que Dieu veut nous donner. On est conscient que Dieu, l'Église, la famille, le témoignage, tout ça, ce sont des bonnes choses que Dieu veut que l'on vive, des priorités tellement importantes. Mais il y a ce que l'on dit, et puis il y a ce que l'on fait. Et parfois, dans ce que l'on dit, il y a une dissonance, parce que c'est pas les paroles peuvent être jolies, mélodieuses, mais c'est les actes de nos vies qui sont dissonantes. Quand je vois la valeur de ce qui vient de Dieu, mais que je fais aucun effort pour le vivre, alors dans les faits, je méprise ces choses. Je vois la valeur de Dieu. Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, je te loue, tu es mon roi, je veux t'élever. Et puis je ne prends même pas le temps de lire la Bible. Je prends même pas le temps de prier. Je prends même pas le temps de tourner mon cœur vers le Seigneur pendant la semaine. J'attends juste ce moment du dimanche matin où c'est que je vais recevoir, mais jamais moi-même je donne quelque chose à Dieu. Oui, mais la loi du prix, elle est simple. C'est que ce que je donne détermine le désir que j'ai. Si je dis que j'aime le Seigneur, mais que je donne pas grand chose, dans ma vie, dans les faits, dans mon temps, ben je l'aime pas vraiment. C'est aussi simple que ça. La loi du prix nous pousse à nous remettre en question, à dire, mais qu'est-ce que je fais vraiment pour Dieu? De quelle façon j'aime vraiment le Seigneur? Et si je suis de ceux qui préfèrent au lieu de passer du temps devant le Seigneur, passer du temps, on en parlait vendredi soir, devant la télévision, une belle émission, un film, ça dure des heures, mais ça me gêne pas. Alors je suis pas un chrétien, je suis un cinéphile. Ou si je préfère passer des heures et des heures devant mon téléphone, je suis pas un chrétien, je suis un geek. Je suis un technophile. Vous comprenez? Faut qu'on pèse les mots que l'on emploie. Si je suis chrétien, c'est Christ qui est en premier dans ma vie. C'est lui qui prend tout mon temps. Ça ne veut pas dire qu'il m'empêche de faire le reste, attention, hein, on est équilibré, sage. Mais celui qui a la priorité, c'est Christ. Sinon, je ne suis pas chrétien, je suis cinéphile, geek et tout ce que vous voulez. Ou alors, je suis sportif parce que j'aime bien aller faire mon footing plutôt que ça. On a le droit de faire son footing, attention, au contraire, c'est recommandé par les docteurs. Mais si ça prend tout mon temps, je suis un sportif, je ne suis pas un chrétien. Vous voyez les nuances ? Je vois la valeur de l'Église. Oh, l'Église, qu'est-ce que c'est bien ? C'est là où Dieu peut restaurer et guérir. C'est là où Dieu peut faire des miracles. Oh, j'ai vu une personne être guérie, j'ai vu ceci, j'ai vu cela dans le passé. Ouais, mais à la réunion de prière, où es-tu, mon frère, ma sœur ? Ah, mais j'ai pas le temps, j'ai ceci, j'ai cela. Mais peut-être que plutôt que d'être un frère et une sœur, parce que des fois c'est dur d'aller à l'Église, parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a toutes sortes d'excuses qui sont là. Mais justement, c'est quand la prière des uns et des autres va nous faire du bien, qu'on va vivre quelque chose avec Dieu. C'est ça qui va montrer à quel point notre amour pour Dieu il est vrai. Si je ne prends pas le temps dans la présence du Seigneur, ça ne veut pas dire, hein, ne venez pas à l'église pour me faire plaisir, hein, attention. Parce que moi je ne fais pas les bilans de qui vient ou qui ne vient pas. Moi ça ne m'intéresse pas, mais c'est pour vous dire le message qui est renvoyé par les actes. Si je ne fais pas cela, si je n'ai pas à cœur l'Église, je ne suis pas un frère ou une sœur, je suis un touriste. Ben oui, quand on va de temps en temps à un endroit parce que ça nous fait plaisir, on va visiter, mais on ne s'implique pas trop. C'est quoi, on est touriste? Mais réfléchissons sur ces choses. Je vais aller plus loin. On peut voir la valeur de la famille. Et Dieu a créé la famille. Dieu a créé ce cercle familial pour que ça soit une vraie bénédiction. Et je peux dire, je vois combien la famille est importante, oui, c'est quelque chose que Dieu veut. Mais si je ne partage rien avec les miens, je ne suis pas vraiment un membre de la famille, je suis juste un colocataire. Vous comprenez ? Si je suis un membre de la famille, alors je vais faire ce qu'il faut pour m'impliquer dans la famille. Je vois la valeur du témoignage, je sais combien c'est important. Mais je n'ouvre jamais la bouche quand j'en ai l'occasion. Ou alors j'aime tout simplement pas les gens, j'aime pas voir du monde. Mais je suis pas un témoin alors. Je suis un timide ou un têtu. Je reste entêté, j'ai pas envie de faire ce que Dieu me demande de faire. Mais la Bible nous dit, au travers de ces paraboles, que ce que je donne détermine ce que je désire. Quand on aime, on met le prix. Quand on aime, et quand on n'a pas la force, on dit « Seigneur, remplis-moi ta force, c'est toi qui me le demandes, c'est toi qui me dis de faire cela. » Mais tu vois, moi j'ai reconnu combien c'est de la valeur, mais j'y arrive pas. Mais donne-moi ta force, Seigneur. Et quand on fait ça, le Seigneur, il nous vient à notre secours. Je me souviens de ce témoignage que partageait Philippe Carré il y a quelques semaines en arrière, où il disait tout simplement que quand son épouse était plus jeune, et elle avait une très belle voix, qu'elle a gardé d'ailleurs hein, jusqu'au bout, mais de telle sorte qu'elle, quand elle chantait, il y avait vraiment une bénédiction qui se passait dans la salle où elle chantait, et il y a un jour quelqu'un qui l'a repéré et qui était anglophone, il lui a dit « mais venez faire une mission dans le chant en Angleterre ». Et il y a vraiment l'impression qu'une porte s'ouvrait pour eux, pour elle en particulier, dans ce ministère du chant. Et puis, alors qu'il y avait cette proposition qui était là, ça ouvre quand même des perspectives particulières. On se dit que Dieu nous donne un talent pour qu'on le mette à profit, qu'on le fasse fructifier. Et Dieu leur a dit très clairement, je ne veux pas que vous alliez sur ce chemin-là. Comment est-ce que l'on réagit dans cette situation? Cette dame, avec son mari, ils aimaient le Seigneur. Et eux, pour eux, ils n'ont pas tortillé 350 ans. Ils ont dit, Seigneur, on va t'obéir. Et plutôt que de partir dans le domaine de la musique, parce que Dieu avait ce projet-là pour eux, hein, ça ne veut pas dire que Dieu est contre, mais Dieu avait un autre projet pour eux, ils voulaient qu'ils servent le Seigneur à plein temps, dans le ministère, et donc c'est pour ça qu'ils sont arrivés à Montauban. Et il disait, Philippe Carré, donc, Il est tellement étonné de voir combien même une personne au fond de son lit, alors qu'elle pouvait plus bouger, alors qu'elle pouvait plus se lever, qu'elle avait du mal à voir beaucoup de personnes, elle faisait quand même tellement et tellement de bien. Elle a fait peut-être plus de bien dans son lit que si elle avait chanté sur des estrades. Parce que c'était le plan de Dieu pour elle. Parce qu'elle a choisi de renoncer à ses propres désirs. Elle s'est pas entêtée en disant « Non, j'ai une belle voix, alors de toute manière, c'est comme ça que je vais servir le Seigneur. Même s'il me dit de faire autrement. » Non, elle a dit « Seigneur, il y a un prix à payer pour te servir, mais je veux payer ce prix. » Et vous tous qui l'avez connue personnellement, vous savez combien elle a été une bénédiction, même dans sa chambre, au travers d'Internet, au travers de téléphone et toutes sortes de façons, elle a été une bénédiction pour toutes les personnes qui l'ont entourée. La loi du prix, c'est que je mets le prix pour ce qui a de la valeur pour moi. Si je suis chrétien, alors c'est Christ le numéro un dans ma vie. Si j'aime l'Église, alors c'est les frères et sœurs qui sont numéro un dans ma vie. Si ma famille est précieuse, alors je fais ce qu'il faut pour prendre soin de ma famille. Si je comprends l'importance du témoignage, alors je demande au Seigneur qu'il me remplisse de son esprit pour être son témoin. Pas seulement être un bon témoin au niveau des paroles, parce qu'il peut y avoir la dissonance. Non, un témoin dans les faits. Seigneur, je veux te mettre en premier. On va fermer les yeux. Quelques instants. La loi du tri. La loi du prix.